Vous écoutez, on lit pour vous.
2,7 millions de Québécois se déplacent à vélo. Un texte de Marco Fortier, paru le 29 avril 2026 dans Le Devoir. Le vélo s'impose comme un moyen de transport plutôt que d'être un simple loisir du dimanche. Plus de 2,7 millions de Québécois, soit 6 adeptes du vélo sur 10, ont pédalé pour se rendre au travail, à l'école, chez des amis ou au supermarché en 2025. Il s'agit d'une hausse de 28% chez les cyclistes adultes et de 24% chez les enfants et les adolescents, en tout juste 5 ans. Cette augmentation marquée de la pratique du vélo utilitaire coïncide avec l'aménagement d'une série de pistes cyclables à Montréal et ailleurs à compter de l'année 2020, dans la foulée de la pandémie, note l'état du vélo au Québec en 2025, qui sera dévoilé jeudi. Ce portrait de la pratique cycliste est publié tous les 5 ans par Vélo Québec. 6 cyclistes sur 10 qui ont utilisé leur vélo à des fins de transport, c'est du jamais vu depuis que Vélo Québec compile cette statistique en 2095. Ça montre que le vélo est un outil de mobilité bien au-delà du loisir, souligne Jean-François Réau, président directeur général de l'organisme de promotion du cyclisme. Une culture des déplacements à vélo s'installe tranquillement au Québec, même si les pistes cyclables sont désormais un des enjeux de société les plus clivants. La mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, a lancé récemment un audit d'une série de pistes cyclables dont certaines sont qualifiées de dangereuses. Des liens planifiés, comme le réseau Express Vélo, ont été mis sur pause. La communauté cycliste est aux aguets, souligne Jean-François Réau. Depuis le début du mandat de Mme Martinez-Ferrada, il y a eu des décisions questionnables. Je pense que l'administration a le fardeau de la preuve pour démontrer qu'elle n'est pas un anti-vélo. Il est maintenant légitime de se poser la question. Un engouement indéniable. Le PDG de Vélo Québec reste tout de même optimiste pour l'avenir des déplacements sur deux roues. Les Montréalais ont adopté massivement l'usage du vélo, au point où la métropole est classée 15e ville cyclable du monde. Québec est aussi entré dans le club des 30 meilleures villes de vélo. Le retour du beau temps, ces jours-ci, confirme l'engouement pour le vélo à Montréal. Certaines pistes sont congestionnées aux heures de pointe du matin et du soir. Les infrastructures, comme le rêve de la rue Saint-Denis, battent des records de fréquentation. 1,67 million de passages sur deux roues ont été enregistrés en 2025 à l'angle de la rue Rachel, un épicentre du vélo en Amérique du Nord. Dans les quartiers centraux de Montréal, 7,8% des déplacements se faisaient à vélo en 2023, une hausse de 56% en 5 ans. À Québec, la part modale du vélo est de 2,4% en augmentation de 50% sur 6 ans. Les gens adoptent le vélo comme mode de transport quand ils ont accès à des infrastructures cyclables de qualité, résume Jean-François Réau. Selon l'étude de Vélo Québec, plus de la moitié, 55%, des déplacements à vélo ont pris place sur des pistes ou des bandes cyclables au Québec en 2025. Une hausse considérable par rapport à il y a 30 ans. À peine 28% des sorties à vélo se faisaient alors sur des voies cyclables. Le sentiment de sécurité se traduit par des cyclistes actifs. Entre mai et septembre, 2,74 millions de Québécois, soit près du tiers de la population, font du vélo chaque semaine pour se déplacer ou se divertir. Et contrairement à une croyance répandue, la vaste majorité des gens vulnérables, comme les personnes âgées, ne se sentent pas intimidés par les pistes cyclables. L'étude confirme aussi que les cyclistes ne sont pas que cyclistes. Parmi les gens ayant fait du vélo en 2025, 93% possèdent un permis de conduire. 87% sont propriétaires d'une voiture et 68% utilisent celle-ci plus souvent que le vélo. Vélo Québec constate un grand potentiel de conversion d'automobilistes aux vertus du transport à vélo. Près de 4 travailleurs québécois sur 10, 39%, habitent à moins de 5 km de leur lieu de travail. La démocratisation des vélos à assistance électrique, 31% des vélos vendus au Québec en 2025, la montée en popularité des vélos cargo, on en dénombre 50 000 au Québec, et l'explosion du vélo en libre-service, 16 millions de passages réalisés grâce à des services comme Bixi en 2025 sont susceptibles d'inciter beaucoup de travailleurs à délaisser leur voiture. Priorité à la consultation. Invitée à réagir à l'étude de Vélo Québec, l'administration Martinez-Ferrada a souligné que Montréal s'impose comme une ville nord-américaine de premier plan en mobilité. On veut continuer dans cette voie, mais en mettant l'accent sur ce qui compte vraiment, sécuriser davantage les pistes cyclables déjà en place et assurer une cohabitation harmonieuse entre tous les modes de transport. Ce qu'on veut, c'est maintenir un réseau de mobilité cohérent, fluide et sécuritaire qui tient compte de nos réalités locales. Et ça passe surtout par la consultation et l'écoute de nos citoyens, a précisé Alain de Souza, responsable de la mobilité au comité exécutif de la ville de Montréal. L'état du vélo 2025 a été établi d'après une démarche scientifique et non selon les perceptions, note Jean-François Réau. La firme Léger a mené un sondage auprès de 2165 répondants à l'automne 2025. La chaire de recherche mobilité de Polytechnique, Montréal, a disséqué des données tirées des enquêtes origine, destination du ministère des Transports dans les grands centres du Québec. Des analyses ont aussi été menées à partir de données fournies par une cinquantaine de municipalités, par la Société de l'assurance automobile du Québec et par Statistique Canada. C'était 2,7 millions de Québécois se déplacent à vélo. Un texte de Marco Fortier, paru le 29 avril 2026 dans Le Devoir.
La saignée dans le ventre de l'endométriose. Un texte d'Anne-Frédérique Hébert-Dolbecq, paru le 27 avril 2026 dans Le Devoir. Pendant des décennies, la journaliste montréalaise Tracy Lindman s'est traînée de clinique médicale en service d'urgence, des sensations semblables à des coups de poignard dans le ventre, des caillots de sang inondant ses serviettes hygiéniques. Ses douleurs, insupportables, étaient balayées du revers de la main. Uniquement liées à ses menstruations, voire imaginaires, les médecins s'entêtaient à lui prescrire des analgésiques et des pilules contraceptives, sans grand résultat. En 2019, au terme de décennies d'errance médicale, la journaliste d'origine montréalaise a finalement pu obtenir un diagnostic. Sa souffrance avait un nom. L'endométriose, une maladie méconnue, souvent passée sous silence, qui touche, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 190 millions de personnes dans le monde et affecterait, selon d'autres données, une femme sur 10. L'endométriose est une maladie qui se caractérise par le développement à l'extérieur de l'utérus d'une structure tissulaire semblable à l'endomètre, la muqueuse qui tapisse l'intérieur de la cavité utérine. Ce tissu peut former des lésions ou des adhérences qui s'attachent aux ovaires, aux trompes de Fallope et à la paroi extérieure de l'utérus. Il peut aussi s'étendre aux reins, aux intestins, au diaphragme et aux poumons. Dans « La saignée », un essai à la croisée du reportage et du récit de soi, d'abord paru en anglais aux éditions ECW, Tracy Lindman retrace l'histoire de la médecine pour mieux comprendre le silence qui entoure la maladie, ainsi que les nombreuses failles du système de santé. En effet, en dépit de la préséance de la maladie, il demeure extrêmement difficile d'obtenir un diagnostic. La plupart des malades doivent donc traverser entre 7 et 10 ans d'errance médicale avant d'obtenir des réponses à leur douleur. grâce à une imposante recherche documentaire, à des entrevues avec des spécialistes et des patientes et à sa propre trajectoire, l'écrivaine expose les nombreux préjugés et mécanismes qui nuisent au traitement des personnes atteintes d'endométriose, esquissant le portrait d'une prise en charge de la douleur grandement affectée par des problèmes systémiques de racisme, de sexisme et de grossophobie. Asymétrie de pouvoir. Les pistes de réflexion évoquées par l'autrice se trouvent à l'intersection de plusieurs sujets. Historiquement, l'endométriose est associée aux femmes blanches cisgenres. Le diagnostic est donc grandement affecté dès lors que l'on n'appartient pas à cette catégorie. La prise en charge des patients issus de communautés racisées est également compliquée par le manque de représentativité de ces communautés à même le corps médical. En 2018-2019, aux États-Unis, à peine 6,2% des diplômés des facultés de médecine étaient noirs, alors que les Afro-Américains représentaient 13,4% de la population états-unienne, écrit-elle. Ce manque de représentativité ethnique et raciale en médecine constitue un risque pour les personnes racisées atteintes de maladies chroniques, en ceci qu'il dispense le système de proposer des soins culturellement appropriés, alimentant au passage les préjugés raciaux et les injustices en matière de santé. En plus d'être parasité par le racisme, la prise en charge de la douleur est traversée de sexisme systémique. De nombreuses études démontrent que, pour une même consultation, les femmes sont souvent dirigées vers la psychologie, alors que les hommes repartent avec une prescription d'analgésique, précise l'essayiste jointe par Le Devoir à Chicago, où elle effectue des études doctorales. Tracy Lindman s'intéresse également au revirement de l'histoire ayant mené à une grande asymétrie de pouvoir entre les médecins et les patients. Ainsi, selon elle, il est établi que le médecin a raison et que le patient a tort, parfois au détriment des réels besoins de ce dernier et même en dépit des lignes directrices établies par les diverses fédérations de médecins. La journaliste donne l'exemple de la prescription de contraceptifs dans les cas d'endométriose. Après un délai spécifique, si la patiente ne ressent pas de soulagement, il est recommandé par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada de passer à un autre traitement. Or, plusieurs d'entre nous demeurent coincés à la première étape. J'ai pris des contraceptifs pendant 12 ans et j'ai dû arrêter par moi-même parce que ma médecin refusait d'entendre que ces derniers avaient des impacts réels sur ma santé mentale puisqu'ils aidaient à mes douleurs physiques. Elle refusait aussi de me recommander à une gynécologue car elle insistait pour dire que la prescription de contraceptifs faisait partie de son domaine de prise en charge. Approche thérapeutique. L'approche médicamenteuse, contraceptif et analgésique, est en effet priorisée actuellement dans le traitement de l'endométriose, au détriment de méthodes chirurgicales pourtant plus efficaces, selon les études corrélées par l'essayiste montréalaise. La contraception est accessible, peu onéreuse et nécessite seulement d'être prescrite par un généraliste. Les médecins semblent aussi penser que si tu gères les symptômes, il n'est plus nécessaire de gérer la maladie. Or, pendant ce temps, celle-ci gagne du terrain. Ce n'est pas très bien vu dans le monde actuel où les droits des femmes de gérer leur corps sont menacés, de critiquer la pilule contraceptive. Elle s'applique toutefois à démontrer, donner à l'appui, que cette dernière a aussi eu des incidences catastrophiques sur la santé des femmes au cours de l'histoire et que le lien causal entre la pilule et la dépression n'est pas écarté. Pendant des années, Tracy Lindman s'est battue pour obtenir une hystérectomie, une ablation de l'utérus. Convaincue de ne pas vouloir d'enfant, Elle s'est vue refuser cette voie qui aurait pu éliminer ses douleurs par des soignants convaincus qu'elle était trop jeune et qu'elle devait garder la possibilité de changer d'idée. Mais je n'ai jamais changé d'idée. On peut complètement transformer son visage sans que nos besoins soient autant remis en doute. Les hommes qui veulent obtenir une vasectomie ne se font pas poser de questions. Pourquoi est-ce spécifiquement dans les questions reproductrices féminines que des barrières s'érigent? Nous sommes capables d'assumer les conséquences de nos choix. En juin 2020, la journaliste a finalement eu gain de cause et obtenu son hystérectomie. Une opération qui n'a pas été sans effets secondaires et autres expériences traumatiques. Aujourd'hui, elle a tout de même l'impression d'avoir traversé la rivière. Aux personnes qui pensent souffrir d'endométriose et qui sont coincées dans les rouages du système, Tracy Lindman recommande d'insister. Effectuez des recherches, amenez un témoin lors de vos visites avec les médecins. Insistez pour que le médecin inscrive au résumé de la visite qu'il a refusé de faire une recommandation pour un spécialiste ou de poser un diagnostic. Il faut être à l'aise avec l'idée de devenir un patient difficile. On peut aller au privé, mais on devient une munition pour les provinces qui détériorent volontairement le système public. Il faut se battre et se faire entendre. C'était « La saignée, dans le ventre de l'endométriose », un texte d'Anne-Frédérique Hébert-Dolbecq, paru le 27 avril 2026 dans Le Devoir.
Celle qui se bat encore pour l'environnement. Un texte de Philippe Mercure, paru le 1er mai 2026 dans La Presse. Notre ministre fédéral de l'environnement est toujours aussi invisible. Où êtes-vous, Julie Dabrusin? Mark Carney recule plus vite que son ombre sur l'environnement. À Québec, les ministres responsables du dossier se succèdent sans soulever l'enthousiasme, ni générer de grands résultats. Et on ne parle même pas de Donald Trump. C'est pourquoi il était si rafraîchissant au sommet Climat Montréal, tenu plus tôt ce mois-ci, d'entendre Gina McCarthy. Enfin quelqu'un qui propose une véritable vision environnementale. Enfin quelqu'un qui la défend avec fougue et engagement. Gina McCarthy a été administratrice de l'Environmental Protection Agency, EPA, américaine, et conseillère pour le climat de Joe Biden. L'Inflation Reduction Act, qui a notamment fait pleuvoir des centaines de milliards de dollars dans les technologies propres. Elle en a été l'une des architectes principales. À 71 ans, Mme McCarthy dégage une énergie telle que nous étions plusieurs sur place à nous demander combien elle avait ingurgité de café avant de monter sur scène. Laissez-moi vous dire une chose rapidement. Le président américain ne parle en aucun cas au nom de tous les Américains. Il ne représente pas les valeurs qui nous sont chères, à moi et à des millions et des millions d'Américains. Alors, passez à autre chose. Ne pensez plus à lui. Laissez-le derrière, dans la poussière. Leave him in the dust. A-t-elle tonné. Elle-même admet avoir de la difficulté à suivre son propre conseil. Le gouvernement de mon pays est en train de gâcher des décennies de leadership américain et de coopération internationale, a-t-elle dit. Nous savons tous que c'est une attitude à courte vue et stupide. Mais mon mari me rappelle sans cesse que je ne peux plus perdre mon temps à hurler contre Trump ou ses flagorneurs. Du moins, pas tout le temps. Madame McCarthy a donné le ton à son allocution en mentionnant qu'on l'avait incité à prononcer quelques mots en français pour le sommet Climat Montréal. Je me suis creusé la tête et je me suis souvenu qu'en troisième année, j'ai appris une chanson en français, a-t-elle lancé, avant d'entonner sur le pont d'Avignon, au micro, avec un fort accent américain. Voilà pour le personnage. Après ce discours épatant, j'ai eu la chance de m'entretenir brièvement avec elle. Au-delà de ses critiques envers Trump, elle lance un message d'espoir. Même avec une administration aussi difficile que celle-ci, nous voyons beaucoup d'espoir et d'occasions favorables autour de nous, assure-t-elle. Je ne veux pas que les gens pensent que nous sommes dans une situation désespérée. Gina McCarthy dirige aujourd'hui America is All In, une coalition de leaders de partout aux États-Unis qui se mobilisent pour l'environnement. À ses côtés se trouve le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, celui de l'Illinois, J.B. Pritzker, et le maire de Cleveland, Justin M. Bibb. Malgré le gouvernement fédéral qui rame dans la direction inverse, America is All In vise à abaisser les émissions des États-Unis de moitié d'ici 2030 et à mener le pays à la carboneutralité en 2050. Des États, des villes, des institutions, des entreprises travaillent ensemble pour mener une action climatique ambitieuse. Ils se battent de toutes leurs forces pour les familles de tout le pays, car nous méritons un avenir plus sain, plus sûr et plus stable, dit-elle. Demandez-lui des exemples concrets et vous en recevrez à la vitesse d'une mitrailleuse. Des villes américaines comme Cincinnati, Jackson, Raleigh ou Cleveland déploient de l'énergie solaire pour réduire les coûts et renforcer la résilience de leur communauté. À Atlanta, Chattanooga, Lansing, ils développent des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, énumère-t-elle. La vague, dit-elle, gagne même les États rouges, donc républicains. Elle souligne que la Floride, le Texas et l'Ohio totalisent 73% de toute l'énergie solaire installée aux États-Unis en 2025. Comment l'expliquer? Parce que c'est moins cher, tout simplement, dit-elle. Ce mouvement, elle l'observe partout dans le monde. Autant nous vivons l'une des périodes les plus difficiles qu'ont connues les États-Unis, souligne-t-elle, autant c'est l'une des plus passionnante pour le monde entier, qui se tourne résolument vers un avenir fondé sur les énergies propres. À ma connaissance, nous sommes les seuls à nous opposer à cet avenir et à tenter de le contrecarrer pour les habitants de notre pays. Je lui fais remarquer qu'en environnement, les reculs de l'administration américaine semblent avoir déteint sur le Canada. Mark Carney a annulé la taxe carbone pour les particuliers, les quotas de vente de véhicules électriques et le plafond d'émissions du secteur pétrolier, pour ne nommer que cela. et il planifie désormais un nouveau pipeline vers l'océan Pacifique, main dans la main avec la première ministre albertaine, Danielle Smith. Pour la première fois, j'ai senti Mme McCarthy délaisser son ton incisif pour se faire diplomate. Je ne vais certainement pas m'asseoir ici et critiquer le Canada lorsque je vois ce qui se passe aux États-Unis, répond-elle. Je connais Mark Carney depuis plusieurs années et je suis très heureuse qu'il ait été élu. En insistant, j'ai néanmoins fini par obtenir le fond de sa pensée sur l'idée d'un pipeline. Le problème, c'est lorsqu'on construit une infrastructure comme un oléoduc. C'est qu'il s'agit d'une décision prise pour toujours, observe-t-elle. Je pense donc que les communautés doivent faire de leur mieux pour faire entendre leur voix. Il faut trouver un moyen, et c'est ce que nous avons fait aux États-Unis, sous l'administration Biden, d'expliquer aux gens les coûts et les impacts d'investissements à grande échelle qui ne servent pas les intérêts réels des communautés. Comme plusieurs, Gina McCarthy observe que tout le monde se concentre sur l'économie ces jours-ci. « C'est normal, dit-elle. Mais ne perdons pas de vue le fait que nous sommes devant un défi existentiel. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons agir contre lui. » Elle ne manque pas non plus de rappeler que la transition énergétique représente une gigantesque occasion économique. Je ne sais pas pour vous, mais j'estime qu'à ce moment-ci, on avait bien besoin d'entendre le message de Gina McCarthy. Qui est Gina McCarthy? Ancienne professeure d'environnement et de santé publique à l'Université Harvard. Ex-présidente et chef de la direction de l'organisation environnementale Natural Resources Defense Council. Administratrice de l'Environmental Protection Agency sous Barack Obama. Conseillère climatique de l'ex-président Joe Biden. Co-présidente de l'organisation America is All In. C'était Celle qui se bat encore pour l'environnement. Un texte de Philippe Mercure, paru le 1er mai 2026 dans La Presse.